Il est 19h sur France Inter. Le journal, bonsoir Yves Decamps.
Bonsoir. La rentrée scolaire à partir du 11 mai en France, au mois de septembre en Italie. Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte dit ne pas vouloir mettre en jeu la santé des enfants. Nous irons à Rome dans un instant. Le report de la rentrée, c'est aussi ce que préconisait en France le conseil scientifique qui n'a pas été suivi sur ce point par le gouvernement. Édouard Philippe détaillera mardi son plan de sortie du confinement dont parents et enseignants attendent des engagements clairs. Faute de quoi, prévient le SNES, les établissements scolaires devront rester fermés. Sur la forme, il faut donner à l'opposition un temps de réflexion nécessaire. La droite et la gauche contestent l'organisation des débats qui feront suite mardi à la présentation du plan. Elles demandent le report du vote au lendemain. Dans ce journal également, les pharmaciens autorisés à vendre des masques grand public, mais la moitié des officines en sont dépourvues, prévient le Conseil de l'Ordre. Un confinement de plus en plus difficile à Mayotte, où les violences se multiplient. Une interpellation musclée qui fait le buzz à Toulouse. Les associations s'indignent. Les syndicats de policiers évoquent un individu dangereux qui se serait évadé d'un service psychiatrique. Et puis le temps, ça se gâte peu à peu demain par l'Ouest.
France Inter.
Retourner à l'école le 11 mai ou les jours suivants, la question restait en suspens pour beaucoup de parents, d'enseignants et d'élus qui s'interrogent sur la possibilité d'ouvrir les écoles. L'avis du conseil scientifique publié dans la soirée d'hier a remis une pièce dans la machine. Le conseil sur lequel s'est appuyé l'exécutif depuis le début de l'épidémie et qui cette fois en pleine transparence dit n'avoir pas été suivi dans ses recommandations sur la rentrée scolaire donc, qu'il proposait de reporter en septembre. Le gouvernement en a décidé autrement, dont acte pour les scientifiques qui ont listé en conséquence un certain nombre d'obligations à respecter, on les connaît, l'essentiel se résume aux mesures barrières, aux masques, aux distances. C'est devenu depuis plus d'un mois une habitude, presque un réflexe, mais en milieu scolaire, c'est tout autre chose. Qu'en pensent justement les principaux intéressés, les élèves? C'est ce que Sandy Dauphin est allé demander à deux collégiennes de la proche banlieue parisienne.
Mélisse est en sixième, elle a envie de retourner au collège, mais difficile de s'imaginer avec un masque toute la journée.
Ça sera un peu dur de le porter sans l'enlever. Au début, j'imaginais ça, genre le porter que pendant les récrés. Et je pense que ça va être un peu compliqué pour moi pendant toute la journée, quoi. On respire moins bien que sans masque. Si on prend pas de risque, j'ai vraiment très envie de retourner.
Pour Awena, autre élève de 6e, ce qui paraît compliqué, c'est de garder un mètre de distance avec les autres tout le temps en classe, dans la cour ou les escaliers.
Oui, je vais avoir envie de leur faire des checks, de dire hey, salut les filles, d'être à côté d'eux en classe, et ça va être vraiment difficile.
Pour le conseil scientifique, le retour au collège doit se faire sur la base du volontariat, mais certains parents sont obligés de reprendre le travail, comme ceux d'Awena, tous deux enseignants. Son père Jérémy est sceptique sur les conditions d'accueil.
On va être obligé de mettre nos enfants au collège ou à l'école, ce qui fait que nous, on est une catégorie professionnelle où on ne nous laisse pas le choix, en fait. Je pense qu'une rentrée en septembre aurait été plus judicieuse. Comment est-ce que vont être mises en œuvre ces mesures de distanciation sociale? On a très peur que ce soit du bricolage.
Le conseil scientifique recommande aussi de faire manger à midi les élèves dans leur classe, à leur table, de laver plusieurs fois par jour poignées de porte et interrupteurs, ou encore d'éviter que les élèves de différentes classes ne se croisent.
La somme des recommandations du conseil, si elles sont retenues, est infaisable, a déjà commenté le principal syndicat des chefs d'établissement, d'autant que le personnel ne sera pas présent à 100%. Pour les parents d'élèves de la FCPE, dans l'état actuel des choses, beaucoup de parents n'enverront pas leurs enfants à l'école, c'est certain. Les syndicats d'enseignants sont tout aussi sceptiques sur la possibilité de respecter des conditions sanitaires très strictes. Pour le SNES-FSU, premier syndicat du secondaire, pas question de reprendre sans un cadre national mieux sécurisé. Sa secrétaire générale adjointe, Sophie Vénétité, avec Sonia Princey.
Ces mesures sont très strictes et correspondent assez bien aux enjeux de santé et de sécurité dans les établissements scolaires, mais elles paraissent difficiles à mettre en œuvre à quelques jours de la fameuse date du 11 mai. Et puis, on a aussi un autre avis qui, lui, recommandait la réouverture des établissements scolaires au mois de septembre. Donc là, aujourd'hui, nous, ce qu'on dit au SNES-FSU, c'est qu'il faut en finir avec cette cacophonie gouvernementale qui fait dire tout et n'importe quoi en quelques jours, voire en quelques heures. On parle quand même de la santé et de la sécurité de plusieurs millions d'élèves et plusieurs dizaines de milliers d'adultes. Donc nous, aujourd'hui, au SNES-FSU, on lance un ultimatum au ministre. Il faut que cette cacophonie cesse. Il faut qu'il présente un plan clair avec des garanties, sans quoi nous allons exiger que les collèges, les lycées, les CIO ne soient pas ouverts avant le mois de septembre. Il en va tout simplement de la santé et de la sécurité de tous. On ne peut pas jouer avec la santé des uns et des autres.
Du côté des élus locaux, c'est la même inquiétude, notamment au niveau des communes chargées des écoles primaires. Les situations y sont très différentes, mais les questions restent les mêmes. Qui fera quoi dans la désinfection des locaux et avec quels moyens? C'est dans ce contexte, comme un fait exprès, que le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a choisi ce dimanche d'annoncer le report de la rentrée scolaire à septembre. Il ne veut pas, dit-il, mettre en jeu la santé des enfants. L'approche est donc différente. En revanche, une partie des entreprises dans les secteurs stratégiques pourront bel et bien reprendre leurs activités dès le 4 mai. Xavier Sartre nous appelle de Rome.
Impossible de prolonger le confinement sans mettre en péril le tissu socio-économique de l'Italie. Le chef du gouvernement est clair, il faut que l'économie et l'ensemble de la société repartent, mais en prenant des précautions. Les entreprises, les chantiers, les transports publics devront ainsi absolument respecter les règles sanitaires de distanciation et de port de masque. Mais toujours pas de date pour la réouverture des bars et des restaurants, ni de précision sur la manière dont le gouvernement entend aider le secteur touristique très affecté. Giuseppe Conte a affirmé que les mesures d'aide à tous les secteurs d'activité seront assurées et que la bureaucratie, souvent décriée, ne serait pas un obstacle. Les élèves, eux, ne retourneront en classe qu'en septembre, le comité scientifique prévoyant un trop grand risque de contagion, sans compter que l'âge moyen des professeurs est parmi les plus élevés d'Europe, pas question de les exposer. D'ici là, le téléenseignement se poursuivra, et pour les parents qui reprendront le travail et ne pourront pas garder leurs enfants, le futur décret prévoira des mesures de soutien, comme des congés extraordinaires et des bonus pour employer des babysitters. Rome, Xavier Sartre, France Inter.
En Espagne, où le bilan des décès quotidiens est tombé à son plus bas niveau depuis un mois, avec 288 morts ces dernières 24 heures. L'Espagne a depuis ce matin adouci légèrement les consignes en direction des enfants, en les autorisant à sortir une heure dans la journée, à condition de rester à moins d'un kilomètre du domicile. Des dizaines d'enfants ont donc réapparu ce dimanche dans les rues avec un masque sur le visage. En Allemagne, le déconfinement engagé depuis 8 jours se poursuit, avec demain le port du masque qui devient obligatoire dans les transports en commun et les magasins. L'Allemagne qui compte aussi sur son application de traçage numérique, dont la mise en place a suscité, comme en France, de nombreux débats. Ce dimanche, le gouvernement d'Angela Merkel annonce qu'il a changé d'avis, sans abandonner le principe, mais après avoir privilégié une solution nationale. Il dit soutenir désormais l'application développée par Apple et Google. Ludovic Piétenu à Berlin.
Les données ne seront donc pas stockées sur un serveur centralisé, mais sur chaque téléphone. C'est bon pour la confiance, juge le chef de cabinet d'Angela Merkel, qui opte donc pour la solution préconisée non pas par des chercheurs allemands, mais par des scientifiques suisses, ainsi que Google et Apple, pour ces appareils fonctionnant sous Android et iOS. Une volte-face des autorités allemandes qui sentaient bien que leur projet d'application de traçage suscitait de plus en plus d'opposition et qu'elle ne serait donc guère utilisée lors de son lancement. Ce qui n'était bien sûr pas le but recherché, explique le ministre de la Santé. Il ironisait sur le retard pris par ce projet, on va finir par trouver un vaccin avant de lancer cette application. Cette nouvelle approche permet le consensus de la classe politique, dont certains élus craignaient jusqu'alors une surveillance étatique et la récupération de données personnelles par des États à des fins de surveillance. Une question particulièrement sensible pour l'opinion publique allemande. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
L'Allemagne où le nombre des nouveaux cas chaque jour diminue avec moins de 2000 personnes ces dernières 24 heures. À noter qu'en France, dans le cadre de son plan de sortie de crise, le Premier ministre évoquera aussi mardi le principe du traçage numérique des malades. Cette application Stop Covid dont on parle depuis des semaines, tout est conforme, a dit ce matin la CNIL, Commission Nationale Informatique et Liberté, qui demande toutefois des garanties supplémentaires, notamment pour tous ceux qui refuseront d'adhérer au dispositif et qui ne devront faire l'objet d'aucune pression, d'aucune sorte, précise la CNIL. En attendant cette appli d'ailleurs, à noter que toutes les idées sont bonnes à creuser. Au Liechtenstein, ce sont 2000 personnes qui vont être équipées de bracelets biométriques, habituellement utilisés pour le suivi du cycle de fertilité des femmes. Le bracelet qui mesure la température, le pouls, la fréquence respiratoire et le débit sanguin pourrait éventuellement permettre de détecter un patient infecté. Et puis pour boucler ce tour d'Europe, situation au Royaume-Uni également ce soir. Boris Johnson, de retour de convalescence, reprendra demain les rênes du gouvernement. Mais ce soir, le gouvernement annonce 413 morts de plus, outre-Manche, ces dernières 24 heures, soit fois 20 700 depuis le début de l'épidémie. Et puis en France, les chiffres du jour annoncés à l'instant par le directeur général de la Santé en forte baisse avec 242 décès supplémentaires ces dernières 24 heures, 22 856 morts depuis le début de l'épidémie.
Il est 19h10, la suite du journal, Yves Decamps.
Si le plan du gouvernement pour la sortie de crise est contesté, la méthode l'est également. Le Premier ministre a choisi de s'adresser aux députés mardi à 15h et d'organiser dans la foulée le débat et le vote, ce que lui reproche aujourd'hui l'ensemble de l'opposition. Les Républicains en tête, qui demandent un temps de réflexion après le discours d'introduction et proposent de repousser le vote au lendemain. Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée ce dimanche sur France Info.
Nous demandons une chose, c'est qu'il y ait un délai entre le moment où le Premier ministre présente ce plan et le moment où il y a le vote. Nous demandons qu'il y ait un délai de 24 heures et que le vote soit décalé au mercredi afin qu'on puisse avoir un débat approfondi, afin que les commissions parlementaires puissent se réunir. C'est comme cela la démocratie, ce n'est pas un blanc-seing, mais c'est simplement un vote éclairé de l'ensemble de la représentation nationale. Nous voulons désormais de la clarté. Il faut arrêter les injonctions contradictoires, il faut arrêter les ordres et les contre-ordres. Il nous faut de la clarté, de la cohérence. Un déconfinement territorialisé qui fait confiance aux acteurs locaux et surtout un déconfinement sous protection, c'est-à-dire la protection par les masques et les tests pour les Français.
Damien Abad avec Jules Dequis. Sur la même longueur d'onde à ce sujet, Jean-Luc Mélenchon dénonce l'imposture et la méthode insupportable du gouvernement qui ne laisse aucun temps critique à l'opposition. Pour le leader de la France insoumise, ça ressemble à de la démocratie, mais c'est seulement de la brutalité. Ce que dit aussi de façon plus policée l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, pour qui l'Assemblée nationale n'est pas très bien traitée depuis quelques semaines. Ce matin, le Premier ministre avait pourtant assuré par tweet qu'il voulait co-construire sa stratégie avec les élus, les syndicats et le patronat, ce qui n'aura pas été suffisant manifestement. Pareillement, sur le soutien aux entreprises annoncé par le gouvernement, notamment en direction d'Air France ou de Renault, si les intentions sont bonnes, on attend de voir des actes. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a dit vouloir faire d'Air France la compagnie la plus écologique du monde. Eh bien, chiche, lui répond cette fois Pascal Canfin, eurodéputé La République En Marche. Il était l'invité ce midi de Questions Politiques sur France Inter.
Moi, je plaide pour qu'il y ait des contrats de transition écologique qui soient négociés et signés par les entreprises concernées. Personne ne conteste le fait que, bien évidemment, la France doit aider Renault et doit aider Air France, parce que personne n'imagine qu'on sortira plus fort de la crise si Renault a fait faillite et si Air France a fait faillite. Mais est-ce qu'on relance Renault pour en faire un constructeur toujours dépendant des voitures fossiles qui polluent beaucoup et qui émettent des particules fines responsables de bien plus de morts que le coronavirus, ou est-ce que, au contraire, on oriente cet investissement vers la relance verte, par exemple la voiture électrique, la mobilité propre, etc., etc., et pour l'aérien, la transformation du modèle économique des compagnies aériennes. Ça, c'est la question qui est posée. L'intention du gouvernement, elle est claire. Mais l'acte, pour l'instant, qui formalise cela, je suis le premier à le reconnaître, n'a pas été acté, et donc je l'attends toujours.
À propos de la reprise économique, une dernière réaction, celle de la CFDT qui se dit ce soir opposée à une reprise d'activité à tout craint, mais ne la juge pas illogique. Dès lors, explique son secrétaire général Laurent Berger, dès lors que la santé et la sécurité des salariés seront assurées. Une interpellation musclée qui fait le buzz à Toulouse ce dimanche. Rien à voir a priori avec le confinement. L'interpellation d'un homme qui se serait évadé d'un service psychiatrique. On peut voir sur la vidéo un policier frapper l'homme à la nuque à coups de muselière. Pendant que ses collègues le maintiennent au sol, les associations s'indignent. Ariane Grissel.
Cette vidéo a été tournée dans la nuit de vendredi à samedi par un riverain.
Aïe, pousse-toi.
On y voit le policier en train d'asséner les coups de muselière sur la nuque de l'homme qui se trouve à terre pendant que deux autres fonctionnaires le maintiennent au sol.
Je veux pas, mets ta main dans le dos, je veux tout. Alors mets ta main,
la Ligue des droits de l'homme dénonce des images choquantes. Du côté de la police, on explique que cet homme s'était échappé de l'hôpital psychiatrique tout proche, qu'il est décrit comme dangereux. C'est la brigade canine en patrouille dans le quartier qui l'a repéré après que l'alerte a été donnée, d'où la présence de la muselière. Le quinquagénaire, 1m90, plus de 130 kg, se montre violent envers les fonctionnaires venus l'interpeller, toujours selon les autorités. Des policiers sont blessés pendant l'intervention, celui qu'ils interpellent également. Les traces de sang filmées le lendemain apparaissent sur la même vidéo. Tous sont rapidement ressortis de l'hôpital. Une fois maîtrisé, l'homme a été placé en garde à vue. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances précises de cette interpellation.
Et le parquet de Toulouse n'a pas fait de commentaire pour l'instant. Pour revenir au confinement, c'est une situation difficile à supporter dans les quartiers populaires, sujet depuis plusieurs jours à des violences urbaines, au point, on a raconté l'histoire déjà, qu'un jeune livreur de 26 ans s'était mis à vendre des cocktails Molotov prêts à l'emploi par le biais des réseaux sociaux. Il utilisait pour ses livraisons le véhicule mis à disposition par son employeur Amazon. Aujourd'hui, si les violences se sont un peu calmées dans les banlieues en métropole, c'est en Outre-mer que la situation reste tendue, en Guyane et surtout à Mayotte, Emmanuel Leclerc.
Oui, il y a 10 jours, c'était la situation à Cayenne, en Guyane, qui inquiétait le plus les gendarmes. Mais là, ces derniers jours, c'est très clairement Mayotte. La nuit dernière encore, et ce n'était pas la pire de la semaine, confie un officier, il y a eu 2 scènes de guérilla urbaine. La première à 21h près d'un bureau de poste à Kungu. Un scénario qui se répète chaque soir. Une voiture de patrouille se fait d'abord caillasser, puis une dizaine d'adolescents commencent à brûler des poubelles et installent une barricade. Il faut à chaque fois attendre les renforts et sécuriser les pompiers. 3 heures plus tard, vers minuit, à quelques kilomètres de là, la situation s'aggrave selon le rapport de la nuit envoyé à Paris, avec cette fois des cocktails Molotov. Il faut savoir que les 2 escadrons de gendarmes mobiles présents désormais en permanence à Mayotte interviennent tous les soirs pour des embuscades. Ils se prennent parfois des parpaings sur la tête, précise l'état-major de la direction générale. La nuit dernière, ils ont dû utiliser 21 grenades pour disperser tout le monde. Il n'y a pas eu heureusement de blessés graves des deux côtés. Ces derniers jours, une machette ou encore une hache ont été saisies et l'antenne du GIGN multiplie les arrestations en pleine nuit quand des suspects sont identifiés.
Emmanuel Leclerc, Mayotte ou comme en Guyane, la crise sanitaire aggrave les fins de mois difficiles. Les décrochages scolaires y sont beaucoup plus élevés qu'en métropole, 15 à 25% contre 4% dans l'Hexagone. Et si cette épidémie de coronavirus était reconnue catastrophe naturelle, c'est l'idée que lancent des familles endeuillées de Seine-Saint-Denis, un département durement touché par le Covid-19. Seul cet état de catastrophe naturelle permettrait aux assurances de payer les obsèques qu'elles ont elles-mêmes, ces familles, bien du mal à financer. Rémi Brancato.
Le beau-père d'Audrey qui vivait à Drancy en Seine-Saint-Denis est mort du Covid-19 le 17 mars.
De pas pouvoir serrer ma mère dans mes bras, ça a été un traumatisme et ça l'est encore aujourd'hui.
À la peine s'est ajoutée la difficulté financière, 3800 euros à régler aux pompes funèbres.
Des familles dans le besoin peuvent pas forcément avoir cette somme n'ayant pas d'assurance vie, pas d'assurance décès. Ma mère, elle n'aurait pas pu assumer seule, c'est clair.
La famille s'est donc cotisée, même chose pour Jamila, sa grande-tante de Garges-lès-Gonesse dans le Val-d'Oise a été emportée par le Covid à 78 ans. Elle avait pourtant souscrit une assurance obsèque, mais les assureurs ne sont pas coopératifs.
Ces personnes nous ont retorqué que le contrat excluait tout ce qui était épidémie. Les frais d'obsèque s'élevaient à peu près à 4500 euros. C'est la famille, hein. Ils se sont partagés, ils ont tous mis la main à la poche.
Jamila espère obtenir une prise en charge avec l'aide de l'association Plus en mes droits. Fouad Benhamed, son fondateur en Seine-Saint-Denis, est sollicité par de nombreuses familles.
On a même eu une famille qui a failli voir son défunt mis dans une fosse commune. Nous, dans le 93, l'épidémie a vraiment fait rage. On s'aperçoit que les gens n'ont même pas de quoi manger. Et on leur demande de payer pour certains les frais d'obsèques.
Alors il a lancé cette pétition pour demander au gouvernement l'état de catastrophe naturelle pour que les assurances payent.
On veut juste alléger les familles dans leur douleur. Au moins, ça leur permettra de ne pas être dans des difficultés financières.
En 10 jours, il a déjà recueilli près de 9000 signatures.
C'est officiel, les pharmaciens sont maintenant autorisés à vendre des masques grand public. L'arrêté a été publié au journal officiel. En attendant que peut-être les buralistes ou les grandes enseignes puissent également le faire, encore faut-il qu'ils soient approvisionnés. Pour l'instant, du côté des pharmacies, ce n'est pas encore le cas. Pour au moins la moitié d'entre elles, si l'on en croit le président du Conseil de l'Ordre, Pierre Bégry. Il est au micro de Victor Maté.
L'arrêté est sorti un dimanche. Vous pensez bien qu'entre le dimanche et le lundi, les pharmaciens n'auront pas pu se procurer ces masques. Et puis ces masques, ils sont faits dans un but d'envisager le déconfinement du public. Donc quelque part, les gens ont du temps pour acheter ces masques. Ils seraient pas consciencieux d'aller se précipiter demain dans les officines pour aller acheter ces masques. La moitié des officines n'en auront pas à disposition. Et les autres, il faut qu'elles s'en procurent. Et puis, c'est pas n'importe quel masque que les pharmaciens vont pouvoir vendre. Ce sont des masques normés, qualitatifs, selon 2 catégories bien précises. C'est pour ça qu'ils ne pourront pas acheter ces masques n'importe où.
Voilà, inutile donc de se précipiter en rappelant que beaucoup de mairies hein, distribueront des masques à tous les habitants. De toute façon, à Bayonne, par exemple, ils seront fabriqués pour une partie d'entre eux par l'entreprise Le Béret Basque, qui s'est adaptée aux circonstances, comme beaucoup d'autres. Le Béret Basque annonce qu'il fournira 53 000 masques à la ville de Bayonne pour distribution avant le 11 mai. Des masques en coton bio, s'il vous plaît. Hein. Ça fera parfait sur la photo avec la baguette sous le bras.
Merci beaucoup pour ce journal Yves de Caen. Dans un instant, le temps.
La météo, avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur, qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus sur fondationdefrance.org.
Prévision de Jean-Michel Golinski.
Demain, averses et orages vont survoler une grande partie du pays, mais du nord de la Seine au Grand Est, de la Provence à la Corse et dans la vallée du Rhône, ce temps menaçant humide et pluvieux orageux n'arrivera que mardi avec comme conséquence une journée de lundi sèche et globalement ensoleillée. Sur les autres régions, c'est par l'ouest que les pluies parfois mêlées d'orages vont s'installer dès la matinée, puis gagner vers le bassin parisien, le centre, le massif central et le Languedoc dans la journée. En cours d'après-midi, des averses vont également se développer sur le Jura et les Alpes. En fin de nuit, les températures vont descendre vers 4 degrés à Reims, Metz et Nancy, vers 6 à Lille et généralement entre 9 et 13 sur les autres régions. En journée, légère baisse des maxima dans le quart sud-ouest avec 17 à Bordeaux, 20 à Toulouse, des valeurs stationnaires autour de la Méditerranée et généralement un peu plus élevées qu'aujourd'hui, de l'ordre de 2 à 3 degrés supplémentaires sur le reste du pays.